Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but. L'hiver et nous sommes à Quimper. Je suis avec Bruno. Je vous propose une rencontre avec Bruno pour cette émission de janvier. Donc on est à Quimper, on est au jardin, comment ça s'appelle ? Le jardin de la retraite.
Voilà, c'est un jardin plutôt genre exotique. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, il fait beau, comme d'habitude, ici en Bretagne.
Voilà,
on
c'est
est
ça.
Bien. Voilà.
Est-ce que vous pouvez vous présenter
Donc voilà, je m'appelle Bruno, j'ai 58 ans, je suis travailleur social au CCAS de Quimper, hôtel social, urgence sociale. Donc je suis là après une reconversion professionnelle, parce que mon métier de base c'est le bâtiment. Et en dernier lieu, j'étais artisan. Et artisan, dans l'artisanat, on a affaire aussi à des personnes qui seraient... Que l'on doit accompagner dans la vie de tous les jours ou bien pour des accompagnements professionnels. Non, voilà. Et c'est ce qu'on fait un peu le travail aussi au CCRS ou au CHRS, c'est accueillir des personnes en vue de leur reconversion ou leur réinsertion professionnelle par le travail en général. Quoi. Voilà.
Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est le CCAS ou le CHRS ?
Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Voilà, c'est pour aider les personnes socialement, dans les accros de la vie en général, quoi. Voilà, pour les aider sur des démarches administratives ou des reconversions professionnelles ou des réinsertions. Voilà, mais moi je suis plutôt à l'hôtel social. Moi, c'est l'hôtel social, c'est pour accueillir des personnes qui sont en grande précarité, en perte de logement, en perte de repères, en désociabilisation. Souvent, c'est des personnes qui atterrissent chez nous après des accidents de la vie. Voilà, ils se retrouvent sans rien. On est le dernier recours pour pouvoir essayer de les aider à rebondir socialement, psychologiquement, puis professionnellement aussi, quoi. Voilà.
D'accord.
Ouais.
Donc là, concrètement, il est aux alentours de midi. Vous m'avez dit que vous repreniez là à 14h. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi ?
Alors cet après-midi, c'est un jour où c'est qu'on a réunion avec l'équipe pluriprofessionnelle, où là, justement, on doit discuter des personnes avec lesquelles on est référent. Moi, par exemple, on est co-référent d'une personne en général. Et là, par exemple, mon collègue et moi, on est 14 personnes en référence. Voilà, nous, on parle des personnes, de leur situation, de leur évolution depuis leur hébergement à l'hôtel social. Parce qu'il faut savoir que quand on les héberge, c'est sous condition. Sous condition, c'est contractualisé. Les contrats qu'on leur fait, c'est surtout pour les aider à faire leur démarche administrative, pour qu'ils soient un petit peu acteurs de leur réussite, quoi, ou bien de leur progression sociale et professionnelle. Et puis médical aussi, parce que c'est un peu de tout. Les gens, ils arrivent chez nous et ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus de suivi médicaux ou médical pour ceux qui en ont besoin. Voilà, ils sont en perte de repères, complètes, quoi. Donc on essaie, avec un travail d'approche avec eux, de leur réapprendre un petit peu les gestes, le savoir-vivre, puis les gestes de la vie courante, quoi, puis un petit peu les valeurs de la vie en général, quoi, c'est-à-dire retrouver du travail, s'occuper de soi, etc., quoi.
Voilà. Mmh. Et les personnes que vous accompagnez, elles sont dans quelle tranche d'âge ?
On a des personnes qui, ça part de 18 ans à 65 ans, voire 70 ans. Donc c'est un petit peu tout public. Voilà, c'est intergénérationnel, c'est socialement, c'est un petit peu des personnes qui viennent de tous les milieux sociaux. Voilà, c'est des personnes, leur point commun, c'est tous des accidents de la vie. Voilà. Accidents de la vie multiples. Mais ce qu'on reçoit, puis ils arrivent chez nous dans des états psychologiques très bas, quoi. Voilà, ils sont tous en grande déprime, la plupart des gens, quoi. Voilà, ils ont des parcours de vie assez compliqués, puis avec le temps, beaucoup se désociabilisent, commencent à s'alcooliser ou bien se deviennent addicts de l'alcool ou bien de drogues différentes. Hein. Voilà, c'est très compliqué. C'est psychologiquement, ils sont atteints. Et puis on est là pour essayer de les aider à rebondir, quoi, voilà. En général, oui. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais bon, le secret de ce métier là, c'est s'adapter, c'est l'humilité, c'est aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on fait pas ce métier. Et puis après, on est une équipe, et grâce à cette équipe, on arrive à certaines choses pour aider ces personnes là, quoi. Mais ouais, avec l'aide, avec l'accord de ces personnes. Voilà.
Et donc là, cet après-midi, vous avez
une réunion, ouais.
Une réunion, et puis après, qu'est-ce qui se...
Après cette réunion, pendant cette réunion, on va parler de la progression de chaque personne hébergée,
ouais,
avec lesquelles on est référent. Et par rapport à leur parcours et les efforts qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, on va décider pour certains de la continuité de l'hébergement. Ou alors, suivant les situations, on va essayer de voir avec qui on pourrait travailler, parce qu'on a plusieurs partenaires, histoire de pouvoir faire avancer leur démarche. C'est-à-dire que, par exemple, pour une personne qui est contractualisée à l'hébergement, quoi, qui est hébergée, on peut lui demander, par exemple, pour des soins d'alcoolologie, à ce qu'il aille un peu plus loin dans ses démarches, si jamais on sent qu'il est en train de se laisser aller un petit peu, quoi. C'est histoire de le rebooster. On fait des contrats à la semaine ou tous les 15 jours, suivant les personnes. 15 jours pour les personnes sur lesquelles on voit qu'ils avancent. Une semaine pour les personnes qu'on voit qui commencent à lâcher prise. Et c'est un petit peu, pas un chantage, mais c'est une façon de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils se remobilisent dans leur démarche administrative ou médicale pour qu'ils puissent avancer, pour justifier l'hébergement à l'hôtel social. Parce que nous aussi, on a des comptes à rendre au niveau de l'hébergement à la DDETS.
C'est quoi la DDETS?
La DDETS, c'est l'enseignement, la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, qui finance justement les hébergements à l'hôtel social, quoi, ou bien tout ce qui est social. C'est la mairie, en fait, quoi.
C'est l'argent public, quoi.
C'est l'argent public, et nous, on a des comptes à rendre. Et les comptes à rendre, c'est l'évolution des personnes dans leur parcours de réinsertion.
D'accord. Voilà, et la clé d'entrée, c'est le logement, en fait. Vous les rencontrez parce qu'ils viennent demander à être hébergés, c'est ça ?
Voilà, le commencement de ces démarches-là, c'est après des évaluations. Moi, par exemple, comme mon collègue, quand on est J2, c'est une notion de... Quand on est J2, par exemple, on commence par accueillir les personnes qui viennent demander l'hébergement. Donc, on fait une évaluation par rapport à leur demande d'hébergement. On leur demande pourquoi ils viennent à l'hébergement, quels sont leurs problèmes. Après, moi, je le préviens quand même. En général, j'essaie de les déstresser un peu, en leur disant comme ça, on n'est pas la police, mais on a besoin de tous les faits qui font qu'ils viennent nous demander l'hébergement, histoire d'appuyer leur demande auprès de la DDETS, justement. Voilà, donc bon, beaucoup de personnes, ça peut être des incarcérations, ça peut être des ruptures familiales, ça peut être des expulsions d'hébergement, ou bien des actions de la vie, ou bien des pertes d'emploi et tout ça. Donc voilà, on fait une évaluation. Par rapport à l'évaluation, on leur demande s'ils veulent venir, s'ils ont un projet, parce qu'il faut quand même qu'ils aient un projet pour venir demander l'hébergement aussi. Parce que s'ils viennent à l'hébergement rien que pour dormir et puis manger, c'est pas ça le truc. Nous, on leur demande simplement de venir faire la demande d'hébergement, ok, c'est pas de problème, mais avec un projet de réinsertion sociale ou professionnelle,
d'accord,
ou médicale.
Mais ce projet-là, il peut arriver dans un deuxième temps ?
Il n'y a pas de limite pour l'hébergement. Tant qu'il y a la progression dans leur démarche, les personnes sont hébergées à l'hôtel social.
C'est parce que je m'interroge au fil de la présentation, mais quand une personne arrive parce qu'elle est dans une situation d'urgence, elle peut ne pas avoir de projet tout de suite.
Elle peut pas ne pas avoir de projet de suite, mais on leur demande pendant l'évaluation si elles ont un projet quand même.
Donc J2, c'est au deuxième jour après leur arrivée.
J2, c'est pas un grade, mais c'est une fonction. C'est une fonction. Tu as J2, tu as HS1. HS1, c'est travailler sur le collectif, si vous voulez. Et J2, c'est travailler sur l'administratif et les évaluations sur les personnes qu'on va héberger.
D'accord.
Nous, on a notre rôle en tant que travailleur social ou moniteur éducateur, c'est J2 l'administratif, où c'est qu'on aide les personnes par exemple à se réinscrire à Pôle emploi ou à avoir le RSA ou à les diriger vers des structures dont ils ont besoin, que ce soit le XAPA, que ce soit le SPIP, par exemple, quand ils ont des obligations.
Le XAPA, c'est quoi ?
Le XAPA, c'est des centres d'alcoolologie. Voilà, c'est les centres d'alcoolologie où c'est qu'ils peuvent être aidés pour le, dans leur parcours d'abstinence.
Ouais.
Là, on a énormément de personnes qui sont addictes soit à l'alcool, soit aux produits illicites, mais ça, c'est par rapport à leur parcours de vie qui a été compliqué. Donc, c'est la descente aux enfers parce que c'est les grosses déprimes qui leur arrivent et puis que, voilà, ils essaient de se réfugier dans ces produits-là, quoi. C'est pas la solution, mais c'est le.
C'est une réalité, quoi.
C'est une réalité, et voilà, qu'on voit de plus en plus là maintenant. Voilà. Bon, avec la conjoncture actuelle du Covid, là, ben, c'est évident que il y en a vraiment de plus en plus. Voilà.
Ouais.
Et on a beaucoup, enfin, nous, on a de moins en moins de place.
Bien parce que là, vous avez combien de places à l'hôtel social ?
Nous, à l'hôtel social, à l'urgence sociale, on a 26. On a 20 dans la structure. Où c'est que tout est centralisé dans cette structure-là. Il y a le point santé, il y a le restaurant social, il y a le point hygiène, il y a le CMP, enfin l'équipe mobile qui travaille le PSM, Gomelin. On a aussi l'accueil social, aussi qui a les assistantes sociales, où c'est qu'il y a des personnes qui les accueillent pour les accompagner dans différentes démarches, hein, ou des demandes de rendez-vous. Il y a aussi au CCS aussi un coin où c'est qu'il y a des ordinateurs, parce qu'ils peuvent, voilà, parce que ça les aide aussi pas mal. Et puis après, j'avais oublié le début de la question.
Bah moi aussi, du coup, qu'est-ce que je demandais combien il y avait d'hébergements
Donc des hébergements à l'accueil social, enfin non, à l'hôtel social, il y en a 20. Après, il y en a 6 indépendants, qu'on appelle l'hippodrome, où c'est qu'elles sont en général réservées aux personnes qui sont prêtes à sortir. C'est-à-dire qu'ils ont avancé dans leur démarche, qui ont trouvé du travail, qui sont autonomes aussi au niveau de l'hygiène, de la vie de tous les jours, quoi, parce que certains, avant d'arriver à l'hippodrome, ben, il faut leur apprendre tout ça. Donc, ouais, c'est pour des gens qui sont prêts à sortir, quoi, prêts
D'accord.
à sortir, qui sont prêts à trouver un hébergement, parce qu'ils sont en attente d'hébergement à ICAO, hein, des logements sociaux, ou CHRS, voilà, là où on s'occupe de ça aussi, enfin, on les amène vers là. Et là, on vient d'avoir, par la mairie, 6 autres logements, qui vont être attribués prochainement. Ça nous fera 32 places là. Donc là, c'est quand même une avancée de la mairie là depuis peu là.
Ouais. D'accord.
Donc c'est bien, mais c'est toujours pas assez, voilà. Ouais. Mais ça c'est plus pas vraiment un problème parce qu'on peut les héberger. Le plus gros problème qu'on a quelque part aussi, c'est que de plus en plus on accueille des personnes qui sont où la structure n'est pas adaptée à ces personnes là. Voilà. C'est des personnes qui seraient plutôt assujetties à l'EPSM Gourmelin.
Mais... Ah, attendez, on va faire une petite pause. Ouais. Alors, on a changé de place parce que finalement, on a été attrapé par la pluie dans ce joli petit jardin. Donc, on a essayé de trouver un petit endroit un peu abrité. On est à côté d'un collège, donc on va peut-être entendre ou la sonnerie ou les bruits de cours, mais ça va aller, je pense. Alors, on en était où ?
Alors moi, je parlais de la structure par rapport aux personnes que l'on héberge. On héberge un public assez large, tout type de personnes, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec des addictions multiples, puis des complications multiples. Mais de plus en plus, on reçoit des personnes qui seraient plutôt assujetties à l'EPSM. Voilà, parce qu'on se rend compte et on le sait.
L'EPSM, c'est quoi ?
C'est le psychiatrique, on va dire, de Gourmelin.
D'accord.
Voilà. De soins psychiatriques, quoi.
Ok.
Voilà. Donc, on sait qu'il y a eu il y a beaucoup de lits qui ont été supprimés. Et ces gens-là se retrouvent facilement à la rue et puis abandonnés à leur sort quelque part. Donc, on se retrouve avec des personnes où c'est que nous, on n'est pas formés à accompagner. C'est des personnes qui ont des pathologies ou des cas psy, genre schizophrène, sociopathe. Manico-dépressif, hein, c'est-à-dire bipolaire. Et nous, le problème qu'on a, c'est que, justement, c'est ce que je viens de dire, on n'est pas formé à recevoir ce public-là. Et c'est assez compliqué à faire cohabiter ces personnes-là avec le public, entre guillemets, du milieu ordinaire, quoi. Avec leurs problématiques qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire leur problème d'addiction. Donc voilà, je pense qu'on en a parlé lors des réunions. Et j'espère, comme il a été dit, qu'on aura quelques formations de base pour justement appréhender les éventuelles crises que pourraient avoir ces personnes-là, parce que nous, on n'est pas formés à un schizophrène, par exemple, parce que c'est des comportements très compliqués déjà pour eux-mêmes et pour nous, parce qu'on doit, on a envie de savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire dans l'urgence comme ça, quoi.
Mmh. Voilà. Ouais.
Ça, c'est un problème. C'est un gros problème quand même. Ouais.
Et il y a d'autres situations un peu difficiles comme ça, du fait de votre métier et
De notre métier, ouais. On est assez... on s'adapte très facilement. On sait prendre du recul. On sait écouter les personnes parce qu'on a beaucoup d'empathie. Mais on se rend compte que de plus en plus, les gens sont agressifs. Et arrive vers nous, l'agressivité est verbale de plus en plus, sur les matériels aussi. Hein, nous, on a un week-end nos véhicules saccagés, par exemple. Et ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Ce qui est assez compliqué, c'est gérer ces situations-là, parce qu'on n'est en général qu'à deux, comme travailleur social, à l'hôtel social. Et comme il y a beaucoup d'administratifs à faire, on manque de temps ou bien pour appréhender ces situations-là.
Je vais au nom du nom des vents, j'y vais au son de l'avant. J'y vais, j'en viens, manger, dormir, c'est des matins. Rater, partir, je vais, je viens, je tends. Au mieux, au mieux, au pire, au temps.
Quand le CHRS ferme dans la journée, elle ferme à 17h pour les personnes de l'extérieur, on se retrouve souvent à deux avec 20 personnes à gérer, avec des situations comportementales assez compliquées la majeure partie du temps, parce qu'ils sont tous alcoolisés ou bien sous-produits ou bien tout en même temps, hein, l'alcool est caché, le shit. Et puis, ils ne sont pas trop cons de ce qu'ils font, les personnes. Donc, c'est à nous de gérer les situations. Donc, on s'adapte très... après, c'est une façon d'être, c'est une position envers les gens. Il faut être très diplomate, en fait, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais bon, après, on arrive à gérer les situations parce que les gens nous connaissent. C'est une sorte de respect qui s'installe entre nous et les usagers, mais au fur et à mesure du temps, quoi.
Ouais.
Après, quand il y a des personnes comme ça qui commencent à s'exciter, par rapport aux les anciens, arrivent à canaliser aussi les personnes qui s'excitent, parce que la relation de confiance s'est faite entre nous, les travailleurs sociaux, et les anciens du CCAS. Mais seulement, ça reste quand même compliqué. Ça reste compliqué. Et
quand
on est face à 20 personnes, c'est compliqué, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et quand vous dites les anciens, ça veut dire que les personnes, elles restent combien de temps
Les personnes peuvent rester de une journée à deux ans. Voilà.
D'accord.
Parce que suivant l'évolution de leur parcours. Après, c'est très aléatoire. Mais les gens peuvent rester de toute façon par rapport à la loi d'Allo. Hein, ils peuvent rester jusqu'à ce qu'ils aient trouvé ou un logement qui correspond à leur situation sociale, professionnelle et psychologique. Voilà.
Et la loi d'Allo, c'est ?
C'est ça qui stipule qu'on ne peut pas virer les personnes de l'hôtel social tant qu'on n'a pas trouvé une solution d'hébergement adaptée à leur situation, en fait. Voilà.
D'accord.
Mais aussi, il faut aussi que, dans le même temps, elles respectent le règlement de fonctionnement de la structure, ces personnes-là.
D'accord.
On a un règlement que c'est un avertissement, après c'est une mise à pied d'un jour, d'une nuit, après deux nuits, de trois nuits, et après une fin d'hébergement, ou suivant les violences qu'il peut y avoir. Ça peut être une fin d'hébergement en direct si on appelle la police, les pompiers, etc. Ou s'il y a des bagarres dans la structure. Parce que ça peut arriver aussi. Mais c'est à nous de gérer ces situations aussi. C'est notre travail. On y arrive parce que, justement, on arrive avec le temps, à avoir une relation de confiance avec les usagers. Voilà.
D'accord.
Et on a un lien spécial. C'est une faculté qu'on a. Autrement, je pense pas qu'on puisse faire ce métier, quoi. Voilà, c'est le côté humain qui est là, qui joue beaucoup. C'est surtout le côté humain qui fait que on peut faire fonctionner la structure, quoi. Et puis aussi l'équipe pluriprofessionnelle qu'on a autour, quoi. Parce qu'on peut aussi compter sur nos collègues, hein, de toute façon, sinon on serait mal, quoi. Travers social, c'est aussi
c'est global,
c'est,
quoi.
C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup,
ouais,
de choses.
Et ça vous plaît ?
Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît énormément parce que c'est un métier qui me correspond complètement, quoi. parce que chacun a son histoire de vie, et puis on ne vient pas dans ce métier-là pour n'importe quoi non plus, la majeure partie du temps. Hein.
Et vous, pourquoi vous avez choisi ce métier-là ?
Moi, j'ai choisi ce métier-là parce que j'ai eu la chance de pouvoir rebondir en fait, sur ce métier-là. Avant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais artisan maçon, j'ai eu plein d'accidents, donc j'ai fini par ne plus pouvoir faire mon métier. Donc le dernier truc, c'était l'hernie discale. Et dans mon parcours de vie, j'ai eu besoin de toutes ces structures-là, aussi bien quand j'étais petit que plus tard.
Donc, c'est-à-dire voilà.
C'est-à-dire, petit, j'étais à la DASC à mes 18 ans, donc j'étais placé en famille, pension honorée, famille d'accueil, tout ce que vous voulez. Après, je me suis marié, j'ai aussi des enfants, j'ai eu un accident de la vie qui a fait que je me suis retrouvé à la rue pendant 9 ans, donc jusqu'en 99. J'ai fait, pendant ces 9 ans-là, j'ai eu des problèmes d'alcoolologie aussi. Et j'ai pu m'en sortir justement avec tous ces professionnels d'alcoolologie et des CCAS, parce que j'étais hébergé dans des CCAS. Et je peux dire que si je n'avais pas eu toutes ces structures-là et toutes ces aides autour de moi, j'aurais pas pu réussir. Donc moi, je suis là aussi parce que c'est un juste retour des choses, parce que j'aime les gens aussi, parce que je sais que moi, on m'a donné la chance de pouvoir rebondir. Et derrière moi, il n'y avait pas que moi, il y avait mes enfants aussi. Donc si ces gens-là, si ces travers sociaux-là ne m'avaient pas aidé, je n'aurais pas pu récupérer mes enfants. Et mes enfants n'auraient pas eu la situation qu'ils ont maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont un beau métier, ils ont une belle situation, ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont une femme, ils ont des enfants. Donc voilà quoi. Donc grâce à tous ces travers sociaux-là, pluriprofessionnels, que je parle des éducateurs, du CMP, du point santé, des assistantes sociales, du restaurant social, du cuisinier à la femme du ménage, tout ça, c'est, pour moi, c'est une équipe. Sans tous ces gens-là, moi, j'aurais pas pu réussir où j'en suis maintenant, quoi. Et puis pour moi, ce parcours-là, je le dis pas aux usagers, mais j'irai à leur faire comprendre certaines choses. Il y a des choses que je peux dire, des choses que je peux pas dire. Il y a des paroles que je dis en informel et d'autres formelles pour les aider avec l'équipe professionnelle. Mais c'est mon parcours de vie et de réussite grâce aux travers sociaux est un outil pour moi pour faire avancer les personnes que j'accompagne. Donc pas de bol pour eux ou tant mieux pour eux, je suis crédible sur beaucoup de choses, sur l'arrêt de l'alcool, sur le fait que les hommes, on peut récupérer nos enfants aussi, il n'y a pas que les femmes, bref. Qu'on peut faire des reconversions professionnelles, parce que quand je suis sorti du CCAS en 99, j'ai fait une reconversion professionnelle déjà en maçonnerie, alors qu'avant j'étais couvreur. En étant sorti de ce milieu-là aussi, après mon parcours a continué. Donc j'ai récupéré mes enfants, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai passé mon permis, j'ai eu mon CAP maçon. Après j'ai fait une reconversion professionnelle, donc j'ai commencé par moniteur d'atelier, j'ai eu mon diplôme moniteur d'atelier.
Comment vous avez migré de maçon à moniteur d'atelier ?
Maçon à moniteur d'atelier, c'est par rapport à mon hernie discale. Où c'est que j'avais une entreprise, je ne pouvais plus gérer mon entreprise par rapport à ma maladie professionnelle, c'est une maladie professionnelle. Donc il a fallu que je rebondisse en vraiment pas mal.
Et comment vous avez fait ? Vous avez été aidé par une structure ?
C'est un truc qui est pas mal, c'est que j'ai été aidé par Cap Emploi. Donc là, on a aussi des usagers à l'hôtel social qui sont assujettis à avoir besoin de Cap Emploi par l'intermédiaire de Pôle Emploi maintenant, parce que maintenant ils ont fait fusion. Et donc, avec Cap Emploi, comme je peux expliquer à certains usagers, on prend rendez-vous avec Cap Emploi. Après, on a on a des rendez-vous psychotechniques pour savoir sur quelle reconversion on peut aller. Donc, par rapport à notre passé aussi professionnel, s'ils ne trouvent pas le métier qu'on veut faire, ils nous proposent d'autres métiers équivalents. C'est ce qui nous permet de pouvoir se réinsérer professionnellement, mais doucement, dans un homme de métier. Donc moi, j'avais demandé moniteur éducateur par rapport à mon passé et moniteur d'atelier par rapport à mon parcours professionnel. Donc par rapport à mon niveau scolaire aussi, et pour un petit peu me remémorer un peu tout ce qui était école et tout ça, c'est compliqué. Bon, je suis parti sur moniteur d'atelier. Ils m'ont mis sur moniteur d'atelier. C'est moins compliqué que moniteur éducateur. Mais c'est assez spécifique quand même, assez lourd comme formation. Donc j'ai réussi à avoir mon diplôme moniteur d'atelier. Mais seulement, toujours en fonction de mon dos avec mon hernie discale, Un jour, j'ai amené au CCS une personne que j'avais trouvée à la rue. Comme je connaissais l'hôtel social pour l'hébergement, je l'ai amené au CCS. Et donc, j'ai déposé mon dossier, mon CV. Et un jour, j'ai été appelé à l'hôtel social en 2018. Et donc, j'ai été pris en CDD en premier. Et après, j'ai demandé à Scoria de faire une formation de moniteur éducateur. Et puis voilà. Et j'ai fait ma formation de moniteur éducateur pendant 2 ans, jusqu'en mois de juin dernier.
D'accord.
Et puis voilà.
Quel parcours ?
C'est un parcours que je n'aurais pas pu faire s'il n'y avait pas eu tous ces travers sociaux, ces structures sociales, en fait. Voilà. Mais ça... Ça, j'arrive à pouvoir le dire à certains usagers du CCS, parce que souvent, ces personnes ne connaissent pas le parcours que j'ai pu avoir,
ouais.
Et ne savent pas que, comment les travailleurs sociaux se donnent à fond pour pouvoir les aider. Quoi. Et à certains, j'arrive à dire, il ne faut pas oublier que si les travailleurs sociaux n'étaient pas là, moi, je ne serais pas là, et vous, vous ne seriez pas là, et peut-être que vous ne resterez pas sans eux. Parce qu'une des choses les plus compliquées, quand même, qui est plus compliquée, qu'il faut reconnaître aussi de la part des usagers, c'est déjà reconnaître, il ne faut plus qu'ils soient dans le déni quand c'est des problèmes d'addiction. Un premier pas, c'est qu'ils ne soient plus dans le déni. Et la deuxième chose qui est compliquée pour eux, c'est d'accepter de se faire aider. Ça, c'est très, très compliqué. À partir du moment qu'ils acceptent ces deux choses-là, c'est plus facile pour eux d'avancer. Quoi.
Et à voilà. Quel moment on accepte de se faire aider ? Qu'est-ce qui fait
C'est un déclic, c'est ce fameux déclic qui se passe dans la tête pour X raisons. On ne sait pas lesquelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le travail des moniteurs éducateurs, ou bien des travailleurs sociaux, ou bien des médecins hospitaliers, quels qu'ils soient, tout ce qui a pu être dit pendant ces 9 ans pour moi, entre guillemets, eh ben, le jour où j'ai eu ce fameux déclic-là, ça m'a aidé plus à dérouler mon tapis. Quoi. Il faut que les travailleurs sociaux sachent que tout ce qu'ils disent, c'est pas qu'ils n'aient pas l'impression de pisser dans un violon. Quoi. Tout ça, c'est incrusté dans le cerveau des personnes quelque part derrière. Et que le jour où ils ont ce fameux déclic, à force que les travailleurs sociaux essaient de les aider, de réessayer, eh ben, tout le travail qu'ils ont fait en amont ressort le jour où c'est que les personnes hébergées ont ce déclic-là. Mais c'est un travail de longue haleine qui met beaucoup de temps. Donc il faut vraiment, moi là je parle pour les travailleurs sociaux, et il faut vraiment pas qu'ils perdent espoir parce que leur travail c'est pas rien quoi. C'est vraiment une chose formidable et c'est une chance qu'ils donnent à des familles quoi, à des familles que ce soit des parents, des frangins, des enfants, voilà, ou les personnes elles-mêmes quoi. Parce que derrière une personne il y a toute une famille hein, et qui attendent à ce que la personne qu'ils aiment, qui sont à la rue, puisse en sortir un jour. Et ça n'a pas de prix, ça. Le travail que font les travailleurs sociaux quand une personne arrive à s'en sortir et à récupérer ses enfants, par exemple, eh ben, ça n'a pas de prix. Voilà. Voilà. Et puis moi, j'ai le chapeau à ces gens-là, quoi. Oui. Donc, c'est ça, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Je suis un peu le miroir envers les usagers pour leur dire que, ben, si, on peut réussir, quelle que soit la situation qu'on a vécue, quoi. Mais avec de l'aide, il ne faut pas oublier, avec de l'aide. Et avec des concessions aussi, quoi. Et maintenant, il pleut, on va arrêter.
Ouais, c'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, c'était super. Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Dormir, c'est des matins ratés par je viens, je tends. Au mieux, au mieux, au pire, au temps. J'y vais, j'en viens, manger, dormir, c'est mes matins. Raquer, partir, ma route termine. Ah, ah, je n'ai pas le temps. Ah, ah, ma route est la même. Ah, ah, je n'ai pas le temps.